Voilà, nous voulons ouvrir deux textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Il n'est pas affiché là, mais donc vous l'aviez affiché tout à l'heure. Nous lirons les sept premiers versets de ce chapitre 17 d'Exode. Nous ferons référence tout à l'heure à cette histoire. Donc, Exode 17, « Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, ou de Tsin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors, le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferais-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Et puis nous faisons donc la deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, et nous commençons notre lecture à partir du verset 7, et nous donc terminons, nous aurons à lire donc tout le chapitre 3, donc jusqu'à la fin. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent, en effet, ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, vous l'avez compris, ça a été annoncé, nous continuons nos messages sur l'Épître aux Hébreux et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes particulièrement sur ce chapitre 3 et puis si vous avez un marque-page, vous pouvez le mettre aussi dans Exode 17. La dernière fois, nous avons regardé, il y a 15 jours, la première partie du chapitre 3, les versets 1 à 6, et dans ces premiers versets, nous avions vu comment l'auteur veut encourager ses lecteurs à s'attacher à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il le fait en mentionnant que tout enfant de Dieu racheté par le Christ participe à la vocation céleste, une vocation venue du ciel, vocation qui nous lie à Dieu qui est au ciel. Puis il le fait en comparant Moïse et Jésus, en soulignant la fidélité de chacun à Dieu et la supériorité de Jésus à Moïse. L'auteur établit aussi le parallèle entre le peuple d'Israël, qui nomme la maison de Dieu, celle sous l'ancienne alliance, et ceux qui ont foi en Christ, qui sont la maison de Dieu sous la nouvelle alliance, qui est possible donc en Jésus.
Donc l'auteur fait ce parallèle entre les deux maisons de Dieu, celle de l'ancienne alliance, les Israélites, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, et ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Et il s'attache alors à souligner la continuité entre ces deux maisons. Il y a le peuple de l'ancienne alliance et le peuple de la nouvelle alliance, qui comprend donc ceux de l'ancienne alliance, c'est-à-dire les juifs, qui vont donc se tourner autant que les païens auprès du Seigneur. Donc, et comme pour la première maison, à cause de son incrédulité, les contemporains de Moïse ne bénéficièrent pas de ce que Dieu avait prévu pour eux en les faisant entrer dans le pays promis de Canaan. La deuxième maison dont nous faisons partie, et c'est là tous les propos du texte que nous allons voir ce matin, courent donc le même risque, de se priver de l'assurance et des promesses reçues dans le salut, dans leur confiance en leur Rédempteur Jésus. C'est pourquoi nous avons au verset 6 cette exhortation qu'on peut résumer ainsi. Donc, puisque nous avons un chef supérieur à Moïse et que nous sommes la maison de Dieu, nous devons d'autant plus, et c'est là ce qui est dit au verset 6, tenir ferme. Donc à la suite de ces premiers versets, l'auteur entame alors un long développement que nous venons de lire, les chapitres 3, versets 7 à 19, mais ce développement continue avec le chapitre 4 jusqu'au verset 13. Et il le fait sur une thématique, la thématique du repos que Dieu donne à son peuple et ce qui peut l'empêcher de se l'approprier, en citant principalement donc une partie du psaume 95. Et c'est ce que nous allons voir ce matin particulièrement. Alors ce matin, nous allons d'abord nous attarder sur la suite du chapitre 3 que nous venons de lire. Et dans ce passage, il est question du repos de Dieu. Mais en regardant de plus près le passage, nous pouvons voir que le point central de ce texte n'est pas simplement le thème du repos de Dieu, mais c'est avant ce thème, l'attitude tragique des Israélites au désert qui va alors les priver donc, de ce repos. Et donc ce texte dit, à leur exemple, il y a là donc une mise en garde pour nous chrétiens, et c'est ce que je vous propose ce matin de regarder en premier, de voir de quelle histoire l'auteur fait particulièrement référence dans ce texte, puis pourquoi le peuple de Dieu de l'ancienne alliance passa à côté du repos de Dieu que Dieu voulait lui donner, puis en troisième point, nous allons voir les mises en garde et conseils qui nous sont adressés, nous, peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, ceci en Jésus-Christ. Et puis, nous verrons encore aussi, nous tirerons quelques enseignements avec des applications pour notre marche par la foi en Jésus-Christ, pour notre marche avec Dieu. Donc, on regardera en dernier point les applications de ce que nous avons vu dans ce passage. Donc, voyons donc maintenant l'histoire d'Israël dont il est fait référence. Auparavant, on avait vu que l'auteur fait un lien entre Israël, déjà, la première maison de Dieu, et puis la deuxième maison qui est l'Église, celle que Dieu se bâtit par son Fils Jésus-Christ. L'auteur va maintenant appuyer une mise en garde envers ses lecteurs, envers nous, en faisant encore référence à Israël, et tout particulièrement à un épisode de son histoire. Pour cela, il cite dans les versets 8 à 11 de notre texte une partie alors du psaume 95 qui fait référence à un épisode qui s'est passé du temps de Moïse. Alors que le peuple d'Israël est dans le désert, selon l'indication que nous avons au verset 8, à la sortie de l'Égypte avant l'entrée dans le pays promis de Canaan. Au verset 9, on apprend que cela s'est passé dans la 40e année, à la fin de ce temps dans le désert, avant d'entrer alors dans la terre promise. Il ne reste que 40 ans, puis ils vont rentrer dans la terre promise. Et c'est au début de cette 40e année. Et il nous faut regarder dans le psaume 95 pour voir qu'il est alors question de ce qui s'est passé dans un lieu qui a été appelé Meriba ou Massa. Mais aussi bien notre texte, on peut remarquer que aussi bien notre texte que celui du psaume 95 ne nous donne pas d'autres détails pour définir de quelle histoire il s'agit. Et c'est en regardant les textes comme Exode 17 que nous venons de lire, mais aussi dans le livre des Nombres, on ne l'a pas lu, au chapitre 20, que nous apprenons qu'il s'agit de l'histoire qu'on a baptisée les eaux de Meriba. Ce lieu se situant alors dans un désert, celui de Tsin, le peuple se trouve devant une pénurie, la pénurie d'eau. Et ils sont alors pressés par la soif. Et alors pressés par la soif, ils se tournent vers Moïse, nous l'avons lu, pour le contester et lui demander de lui donner de l'eau à boire en lui faisant alors le reproche du pourquoi il les avait fait alors sortir d'Égypte. Et si c'est pour qu'ils meurent de soif maintenant, il valait mieux qu'ils restent en Égypte, en quelque sorte. Mais ce reproche visait aussi l'Éternel. Dieu entend les propos de son peuple et il dit à Moïse de prendre alors son bâton et d'aller donc à un rocher, à Horeb, pour frapper ce rocher afin qu'il en coule de l'eau. Et donc c'est ce que va faire Moïse et c'est ce qui va se passer. Et le peuple va pouvoir de nouveau donc avoir l'eau qu'il a besoin. Le texte de l'Exode conclut cette histoire en affirmant qu'on appela alors ce lieu Massa. Donc, et ce mot Massa signifie tentation. Et puis aussi Meriba, qui signifie contestation. Car Israël contesta contre Moïse et aussi contre Dieu. Le peuple de Dieu de l'ancienne alliance tentèrent alors ce dernier en disant « L'Éternel est au milieu de nous, oui ou non ?» Autrement dit, si Dieu, tu dis que tu es avec nous et que tu es là, alors pourquoi cela ? Alors tu dois agir. Tu te dois. Voilà donc alors à quelle histoire le psaume 95 fait référence, à cet épisode donc bien précis. Mais quand nous regardons le texte, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons examiner le texte que nous voyons ce matin. Donc, quand nous regardons le texte, nous notons dans la reprise de ce psaume que l'auteur de notre épître ne cite pas Meriba ou Massa. Et il cite le texte du psaume en lui donnant alors une autre approche, pas une approche générale. Il n'est plus question d'une attitude que les Israélites eurent lors d'un seul événement dans notre texte, mais d'une attitude qu'ils eurent régulièrement dans ce temps, dans les 40 années dans le désert. Ainsi, on pourrait noter plusieurs points, mais j'en cite qu'un seul. Ainsi constate Dieu, Israël donc, a vu les œuvres de Dieu pendant combien de temps ? Pendant 40 ans. En ajoutant, mais son cœur, nous dit le texte, s'est toujours égaré. Il ne s'agit pas là d'un seul événement, mais de plusieurs événements. Et il n'a pas connu les voies de Dieu en endurcissant son cœur et en se révoltant. Quand nous lisons les textes qui nous relatent les événements concernant ces 40 années dans le désert, on sait qu'on peut constater cet endurcissement du cœur à de nombreuses reprises par Israël et que cela entraîna donc la mort de ceux qui se révoltèrent. Ils n'entrèrent pas dans le repos de Dieu. Cette mort au désert les priva du bénéfice du repos de Dieu qu'ils auraient pu vivre dans le pays de Canaan. Alors oui, donc il s'agit bien de cette histoire de Meriba et de Massa, mais l'auteur la reprenant, il en fait plutôt un état général. Voilà ce qu'Israël donc, a vécu pendant 40 ans. Il avait constamment dans son cœur donc, de la rébellion, de la révolte, des reproches à faire à Dieu. Et cela lui a coûté le repos, en tout cas pour toute une génération. Alors, quelles furent les raisons qui les empêchèrent justement d'entrer dans le repos de Dieu ? Le texte nous en donne plusieurs. Notre texte nous donne plusieurs de ces raisons. Il fait mention de l'endurcissement de leur cœur. Je vais peut-être aller un peu vite, c'est affiché. Et là, vous pouvez le voir au verset 8 et 15. Il fait aussi mention de leur révolte, versets 8 et 15. de leur comportement provocateur à l'égard de Dieu en le tentant pour l'éprouver, versets 8 à 9 et 16. Ils ne tinrent pas compte, nous dit ce texte, aussi de ce qu'ils avaient vu des actions de Dieu, ces actions de Dieu à leur égard, à leur faveur, verset 9. Leur cœur s'égarait, toujours loin des voies de Dieu, verset 10. Ils ne voulaient pas connaître les voies de Dieu, d'ailleurs, verset 10 encore. Leurs cœurs sont décrits comme méchants, et suivant les traductions, comme mauvais, ce que je préfère, verset 12. Mais aussi des cœurs incrédules, qui n'avaient pas la foi qu'ils auraient dû avoir, verset 12 et 19. Et puis pour terminer, le texte nous dit « ils péchèrent et désobéirent à Dieu », verset 17 et 18. Aussi, l'attitude régulière vis-à-vis de Dieu de toute cette génération d'Israël dans le désert, le texte nous le dit, irrita Dieu. Le peuple d'Israël irrita souvent donc l'Éternel dans le désert par son incrédulité. Ils ne crurent pas Dieu, demandant si le Seigneur était réellement avec eux, mettant à l'épreuve de façon impie sa puissance, sa fidélité, sa bonté, oui, après en avoir si souvent contemplé les plus éclatantes manifestations. Ils virent les œuvres de Dieu, en jugement sans doute, parce que là aussi ils les ont vues, hein, quand Dieu agit en jugement, mais en miséricorde bien souvent. Leur incrédulité n'éclata pas seulement par leur refus d'obéir, ou par leur murmure, par leur révolte. Mais nous pouvons lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, au verset 27, ce que parfois ils avaient dans leur pensée. Il est dit qu'ils murmuraient dans leur tente, dans ce passage, Deutéronome 1, 27, en disant que le Seigneur avait de la haine pour eux, et qu'il les avait fait sortir d'Égypte pour les détruire. Vous imaginez cette pensée dans leur cœur. Aussi, ce manque de juste reconnaissance de qui est Dieu, de son désir envers eux, et l'endurcissement de leur cœur ont conduit Dieu à jurer dans sa colère, donc dans sa justice, qu'ils n'entreront pas dans son repos. Et c'est pourquoi toute cette génération, à plusieurs moments de ses 40 ans, va périr dans le désert. Mais l'intention de l'auteur n'est pas seulement de parler de ce qui s'est passé à une période particulière de l'histoire d'Israël et de montrer pourquoi toute une génération n'entra pas en terre promise en raison de leur culpabilité, voulant alors souligner la gravité de leur incrédulité. Elle n'a pas été à un seul moment, mais tout le long de ces 40 ans, donc l'incrédulité s'est manifestée de différentes façons. L'auteur veut plutôt alors tirer de leur exemple des enseignements. Et pour qui ? Pour ceux à qui il adresse sa lettre, afin qu'ils ne tombent pas dans cette même incrédulité, cette incrédulité qui empêche de bénéficier pour donc les croyants en Christ du nouveau repos de Dieu donné en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, cette lettre, ce que les propos de l'auteur sont aussi pour nous. Chaque membre du nouveau peuple de Dieu qui est l'Église a reçu donc la bonne nouvelle du Sauveur Jésus, et par la foi en lui, il peut entrer dans le pays promis, dans une vie avec Dieu. Mais pour cela, l'enfant de Dieu doit veiller à sa marche spirituelle avec Dieu, car il garde le choix de vouloir passer du désert au royaume de Dieu, ou d'avoir foi ou de ne pas avoir foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'auteur nous met d'abord en garde de différentes façons. Et il le fait, donc, et là je vous propose de voir les mises en garde, des conseils qui sont adressés donc aux chrétiens, à chacun de nous. L'auteur donc le fait en disant que les Israélites endurcirent leur cœur et n'écoutèrent pas la voix de Dieu, verset 8. Et il dit, mais ne faites pas comme eux. Donc aujourd'hui Dieu parle, il parle par son Fils Jésus, et notre cœur doit être ouvert à ses paroles pour qu'il se révèle à chacun de nous et pour nous offrir une vie nouvelle avec Dieu, en communion avec lui, en tenant compte de ses voix. Oui, donc n'endurcissez pas votre cœur, entendez sa voix, écoutez Dieu. Un cœur qui s'endurcit ou qui reste endurci est un cœur mauvais, un cœur qui ne croit pas. C'est pourquoi l'auteur nous met encore en garde, verset 12. Prenez garde, frères, que personne parmi vous donc n'ait un cœur méchant, un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Certaines versions traduisent un cœur mauvais qui ne croit pas. Prenez garde de ne pas avoir cela, ce cœur mauvais qui ne croit pas. L'incrédulité ainsi que la foi ont leur siège dans le cœur. Toute forme d'incrédulité, de manque de foi, vient du cœur méchant ou mauvais qui résiste encore à se soumettre, à dépendre de Dieu. C'est une sorte de rejet et de l'œuvre qu'il peut et veut faire grâce au salut qu'il nous a donné par Jésus et sous la conduite du Saint-Esprit. L'incrédulité conduit à mettre de côté le Dieu vivant pour se reposer bien souvent sur soi-même ou sur bien d'autres choses qui peuvent prendre sa place et nous priver de sa présence, de son action en nous et à travers nous et par là de son repos. Mais nous voyons encore aussi que l'auteur continue à donc mettre en garde ou à conseiller pour éviter l'endurcissement du cœur à l'écoute de la parole de Dieu, pour éviter qu'il y ait dans ce cœur de l'incrédulité, un manque de foi dans notre cœur, l'auteur donne un conseil d'une grande importance, car il empêche cet endurcissement et cette incrédulité de prendre place en nous. Il écrit au verset 13, « Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire tant que vous êtes là et tant que le Seigneur ne revient pas, voilà ce que vous devez faire, exhortez-vous. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc pour prévenir un tel malheur, c'est-à-dire pour prévenir afin de ne pas avoir un cœur incrédule, mauvais, donc, oui, l'auteur dit « Exhortez-vous les uns les autres, en vous remettant mutuellement en mémoire les glorieuses promesses de l'Évangile, les grâces que Dieu nous accorde en son Fils bien-aimé. » Au chapitre 10, que nous verrons par la suite, l'auteur montrera aussi l'importance de l'exhortation mutuelle, donc l'exhortation fraternelle dans les relations individuelles et dans l'assemblée, en écrivant « Veillons les uns sur les autres, nous exhortons l'un l'autre », versets 24 et 25. Dans ce « aujourd'hui », c'est-à-dire aussi longtemps que dure ce jour de grâce et de salut où nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle par son Fils, lui, l'apôtre de notre confession, donc, nous invite à donc, l'écouter et à nous exhorter à cette écoute en partageant donc, sa parole. Il est important donc, que nous nous encouragions en nous exhortant mutuellement dans notre foi commune. Car le monde, lui, nous séduit en nous présentant toutes sortes de séductions qui peuvent nous entraîner dans un péché et nous rendre désobéissants à notre Dieu et Père. Le péché séduit. Il est question ici de la séduction, donc du péché. Il est un habile et redoutable séducteur. Quand il a place en nous, alors il endurcit peu à peu le cœur de celui qui l'écoute. Le péché devient un obstacle à la bonne marche spirituelle avec Dieu. Et pour ne pas laisser de la place à la séduction du péché, l'auteur nous dit que nous devons nous encourager dans cette exhortation mutuelle en partageant notre foi commune, en nous encourageant à placer notre confiance en Dieu et à mettre en pratique la volonté de Dieu. Cette pratique de l'exhortation dans les choses de Dieu n'est pas seulement l'affaire des responsables spirituels de l'Église, mais concerne tout enfant de Dieu, on le voit bien ici. Nous devrions avoir le désir, mais aussi le souci de nous exhorter mutuellement. Enfin, dans les conseils, mises en garde que l'auteur nous donne, nous avons au verset 14 donc, un conseil pour que nous ayons des cœurs à l'écoute et obéissants à Dieu. Et cela donc, nous a été déjà un petit peu mis devant nous au verset 6. Il est question, au verset 6, de retenir fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Nous voyons cette recommandation encore au verset 14. C'est-à-dire qu'il est impératif que nous gardions cette assurance que nous avions, je dirais, dès les débuts de notre conversion. Cette assurance que Dieu est digne de notre confiance, que nous devons garder, quoi qu'il en soit, la position ferme de la foi, de la confiance en notre Seigneur Jésus, en dépendant de lui et en cherchant à lui plaire. C'est ainsi que nous, que notre cœur sera alors disposé à plaire à Dieu dans une écoute et une obéissance à sa personne. Alors maintenant, nous allons regarder le dernier point et voir quelques applications en rapport avec ces mises en garde et conseils que nous venons de voir. Tout d'abord, Dieu a parlé, si nous entendons sa voix, nous dit le texte, « N'endurcissons pas notre cœur ». Oui, si Dieu nous parle, comment tenons-nous compte de ce qu'il nous dit ? Dieu a parlé, oui, n'endurcissez pas votre cœur, tenez compte de ce qu'il vous dit. Les Israélites dans le désert entendirent par la bouche de Moïse de nombreuses paroles de Dieu que Dieu leur a adressées par Moïse. Mais qu'en faisaient-ils ? Par moments, ils en tenaient compte, mais malheureusement, par moments, ils n'en tenaient pas compte, ils les oubliaient. Et malheureusement, ceci a donc les a entraînés beaucoup à leur perte. Les paroles divines ne pénétraient pas toujours leur cœur dur, car nous dit le texte, ils avaient un cœur dur. Dieu nous parle quand nous lisons sa parole, quand nous partageons sa parole entre nous par des échanges lors d'études bibliques ou par l'écoute d'un message. Mais que faisons-nous de ce que nous entendons, de ce que nous lisons ? Il est important que nous, et j'aimerais donc que vous reteniez cela, disciplinions notre cœur. Disciplinons notre cœur. Notre cœur à l'écoute, il y a une discipline de l'écoute, mais aussi à développer la discipline de vouloir retenir ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et ça, c'est formidable aussi. Il faut discipliner donc notre cœur, notre personne à dire, mais ça, je l'ai entendu, je veux le retenir. Et je suis reconnaissant qu'on a pris cette initiative que dans les études de quartier, de plus en plus, donc, on prend des notes le dimanche pour pouvoir donc revenir sur ce qui a été dit et même, j'espère, enrichir ce qui a été dit, regarder ce que le texte nous dit et voir donc qu'il y a des choses à retenir. Oui, nous devons discipliner notre cœur à donc retenir ce que nous entendons, ce que nous lisons. Mais aussi discipliner notre cœur à vouloir l'appliquer, appliquer ce que nous lisons, ce que nous entendons, et ceci dans notre quotidien. Oui, il est important donc que nous entendions le Seigneur nous dire, oui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Votre cœur doit être une éponge de la parole de Dieu. Puis, je dirais une autre leçon par rapport à ce premier propos, n'endurcissez pas votre cœur si vous entendez la voix de Dieu. Il n'est pas inutile de sonder son cœur, justement, pour voir son état, pour percevoir si notre cœur est en général malheureusement encore dur ou en partie dur, pour voir s'il est ou pas docile à Dieu, s'il est malléable ou pas, donc par Dieu, s'il est désireux de plaire à Dieu en toute chose ou en partie. S'il se laisse influencer, former, façonner par l'Esprit de Dieu, ou s'il est indifférent, résistant à son œuvre en nous. Il n'est pas inutile d'examiner et de juger son cœur en n'oubliant pas que notre cœur est le siège de notre personnalité, de notre personne, et que de juger notre cœur, c'est voir si nous résistons ou obéissons à Dieu dans un domaine ou un autre de notre vie. C'est voir si notre conscience que l'esprit utilise donc renvoie à notre esprit que nous marchons dans la lumière de Dieu ou si nous résistons dans un domaine de notre vie où nous ne voulons pas écouter Dieu, où nous ne voulons pas tenir compte de lui. Nous pouvons malheureusement garder, et c'est ça qui est terrible, donc pendant des mois, ce que nous savons être un péché en nous. Une désobéissance à Dieu. L'auteur parle de l'endurcissement par la séduction du péché, verset 13. Alors que Dieu, par son Esprit Saint, nous parle et peut mettre alors le doigt sur un péché, il est malheureusement donc dans notre facilité, dans notre cœur rebelle, donc nous pouvons prendre cette position de ne pas l'écouter. Nous résistons. Nous ne comptons pas sur Dieu pour nous aider à vaincre ce qui en nous nous empêche de rentrer dans une vie pleine avec lui. Une vie à sa gloire, une vie pour notre bien. Pire, nous pouvons vouloir ne pas changer et excuser même notre péché. C'est malheureusement notre cœur rebelle. Alors Dieu nous dit aujourd'hui, pourquoi endurcis-tu ton cœur ? Pourquoi prends-tu ma parole à la légère ? En faisant cela, tu ne tiens pas compte de moi. C'est ce qu'il a dit aux Israélites, et c'est ce qu'il peut nous dire encore. Tu ne tiens pas compte de ton Sauveur et Seigneur Jésus. Tu ne rentres pas dans mon et son repos. Tu te prives d'une partie de la vie que je t'offre, celle pourquoi j'ai donné mon Fils, celle pourquoi il est mort pour toi. Et comme donc pour l'Israélite, il y a eu des conséquences, Dieu peut aussi nous rappeler, attention, tout péché a des conséquences, toute désobéissance a des conséquences, sans voir forcément que le ciel nous tombe sur la tête. Dieu a parlé, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Aussi, comment considérons-nous l'importance de la parole de Dieu ? Est-ce que nous avons compris l'importance de la parole de Dieu dans notre cheminement spirituel ? Quelle place lui donnons-nous ? Prenons-nous le temps nécessaire de la lire, de la méditer, de l'étudier pour y découvrir Dieu, le Christ Jésus, la vie conduite par son Esprit qu'il veut nous donner et que nous devons alors désirer ? Dieu nous parle et il est important que nous l'écoutions pour tenir compte de sa personne et de sa volonté. Sinon, nous risquons de laisser installer dans notre vie avec lui bien d'autres enseignements, points de vue et philosophies de ce monde sans Dieu qui vont en faire en sorte qu'ils vont glisser peu à peu en nous le venin de l'incrédulité. Ils mettront à mal notre foi en notre Seigneur Jésus en ne lui laissant plus sa juste place dans notre vie et dans nos décisions. Il est donc important que nous considérions l'importance de la connaissance de la parole de Dieu et que donc nous nous attachons à la parole de notre Dieu, car en nous y attachant, nous nous attacherons à Dieu et à celui qui nous a donné Jésus. Une autre application est en rapport avec le fait de ne pas tenter Dieu. Ce serait dommage de ne pas parler de cela très courtement, mais on va quand même en parler. Pas tenter Dieu comme les Israélites le firent dans le désert. On peut aussi se poser la question, si nous ne tentons pas aussi Dieu par moment, hein, est-ce que vous ne tentez pas Dieu par moment? Mais comment pouvons-nous le faire, hein? Bien sûr, il faut se dire quand même, hein. Il me semble que nous pouvons tenter Dieu quand nous avons, comme l'a fait Israël donc dans le passé, nous avons donc une mauvaise compréhension de sa personne, une mauvaise compréhension de ses actions à notre égard. Oui, donc tu es un Dieu qui nous veut du mal. Donc des fois, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas ses actions. Mais tu fais ça, mais je ne comprends pas. Et là, donc, quelque part, on remet en cause donc, notre relation avec Dieu, notre confiance en Dieu. Et même, on peut le tenter en lui disant, mais si vraiment tu as dit que tu es comme ça, alors tu dois. Car c'est ainsi, nous tentons Dieu quand nous avons donc quand nous approchons de lui en lui disant qu'il ne peut qu'agir en bien à notre égard comme nous le voulons. C'est pas toujours évident hein, de connaître la volonté de Dieu pour soi et on pense que pour soi la volonté de Dieu c'est ça, c'est ça, c'est ça et puis d'un coup ça ne se passe pas comme ça. Ah. Mais Seigneur, si tu es Dieu, tu devrais faire ça, 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 à ma façon. On pourrait tenter Dieu en lui disant que s'il est notre Dieu, si nous sommes son enfant, il ne peut qu'agir en notre faveur ou qu'il ne peut agir que comme nous considérons qu'il doit agir. Nous tentons le Seigneur quand nous voulons le forcer d'agir en notre faveur. Tu dois. Nous pouvons le faire en voulant gagner sa faveur pour qu'il soit plus clément envers nous. Ça aussi, on peut avoir cette approche, croyant que ce que que ce sont nos efforts ou ce que nous ferons qui l'amèneront à agir en notre faveur. Bien sûr, nous, on ne brûle pas des cierges pour que Dieu nous soit favorable. Mais on peut peut-être des fois tomber dans un légalisme, par exemple. Ah, si je fais ça, Dieu sera favorable. Oubliant la grâce de Dieu. Oubliant qu'il est souverain dans ses décisions. Nous pouvons le faire par une sorte de chantage du style « Si Dieu, tu fais cela, alors moi, je ferai, alors moi, je serai. » Nous tentons le Seigneur quand nous le remettons en cause en lui disant « Seigneur, je ne te comprends pas et ou j'ai du mal à te faire confiance car ce que tu fais ne me convient pas ou encore je ne te vois pas agir. » Souvent c'est ça aussi, hein, je ne te vois pas agir, donc oula, je comprends plus qui tu es. Et comme je comprends certaines choses de toi, tu devrais alors agir. Et comme pour les Israélites, Dieu nous dit, pour que nous ayons une juste approche de sa personne et pour ne pas le tenter, que nous devons ne pas oublier qui il est et toutes les œuvres en notre faveur. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier bien donc, qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ et toutes les grâces qu'il nous donne, donc que Dieu nous donne par Jésus-Christ son Fils. Nous ne devons pas oublier que Dieu nous a donné en Jésus, donc oui, le Fils de Dieu qui a donné sa vie. Et cela devrait nous aider à jamais ne remettre en question le dessein bienveillant de Dieu à notre égard. Cela devrait nous aider à garder cette certitude ou à cultiver cette certitude qu'il est digne de confiance. Une dernière application, je sais que mon message est un peu long ce matin. Et cela est en rapport avec le conseil de s'exhorter mutuellement. Là aussi, on ne peut pas passer à côté de cela dans ce texte. Là encore, examinons comment nous appliquons cette exhortation salutaire pour notre marche dans la foi et salutaire pour celle de nos frères et sœurs. Quelle place donnons-nous à cette exhortation mutuelle dans nos discussions quand nous nous retrouvons? Bien sûr, je vais vite enlever quelque chose que vous pourriez avoir à l'esprit. Entendons-nous bien, je ne dis pas ici que nous ne devons pas plus parler de bien d'autres choses que celles de notre foi commune. Car, rappelons-nous, dans notre quotidien, nos vies sont bien remplies de ces choses. On ne va pas commencer à ne pas parler de nos passions, de ce qui nous plaît dans la vie, de telle ou telle chose qui nous est arrivée. Non. C'est normal de parler de ces choses-là. C'est notre vie. C'est notre vie. Mais est-ce que dans nos échanges, nous avons ce désir de nous entretenir aussi de notre foi commune? Est-ce que nous veillons à nous encourager mutuellement par des paroles où nous mettons en avant notre foi, notre vie avec notre Seigneur Jésus, avec notre Dieu et Père? Si nous ne le faisons pas, visons d'abord ce qui est possible. Parce que des fois, on dit, oh là là, ça je ne peux pas, il faut que j'aille voir tout le monde, leur dire une parole, avoir quelque chose. Non, alors, visons ce qui est possible. Ce qui est possible, donc. Il faut que je retrouve mes notes. Oui, voilà. En essayant déjà de le vivre avec quelques-uns, avec quelques frères et sœurs de notre assemblée. Comment? En les prenant à cœur et en désirant les encourager à marcher avec Dieu. Si nous ne mettons pas en pratique cette exhortation mutuelle avec d'autres frères et sœurs, il n'est pas inutile d'en faire un sujet de prière. Demandons à Dieu comment nous pouvons le faire. Réfléchissons devant lui sur là où les façons pratiques de le faire, de le vivre. Par exemple, je vous donne un exemple. Je crois que nous pouvons nous exhorter mutuellement en partageant d'abord avec tel ou tel frère ou sœur sur ce qu'il ou sur ce qu'elle vit actuellement. Et en l'écoutant, car il est nécessaire quand même de l'écouter, de voir comment il ou elle le vit avec le Seigneur. Puis, alors, à ce moment-là, on peut en faire un sujet de prière devant Dieu, pour lui et pour elle, et demander à Dieu donc, de nous donner une parole à son égard. Tu vois, mon frère, ma sœur vit telle ou telle chose. Ça ne peut pas être forcément catastrophique, qu'on s'entende bien. Il vit telle ou telle chose. J'aimerais l'encourager. J'aimerais lui donner une parole de soutien. J'aimerais avoir une bonne attitude fraternelle qui va l'encourager à avoir confiance en toi. Oui, il me semble que ces choses-là, nous devrions en avoir à cœur en réfléchissant à comment après, donc, Oui, on peut partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur de dire à nos frères et sœurs, faisant un sujet de prière. Oui, on voit combien il est important de nous exhorter mutuellement. Vous voyez bien ce qu'il est dit dans ce texte, afin de ne pas tomber dans le péché. Alors pour conclure, écoutons Dieu nous dire ce texte, ce que nous venons de regarder. Écoutons-le nous dire, attention, n'imite pas aujourd'hui le comportement qui a valu aux Israélites de connaître le châtiment divin et de ne pas entrer dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Aujourd'hui, je te parle encore, et demain, je te parlerai encore, tant qu'il y aura ce aujourd'hui. Écoute-moi. Écoute Jésus, mon fils, et obéis à sa voix. Pourquoi ? Afin que tu entres dans son repos, ce repos qui est la pleine vie avec lui, ce repos, oui, donc qui vaut la peine d'être vécu. C'est pour cela qu'il est mort pour toi. Tu dois le vouloir. Alors n'endurcis pas ton cœur. Écoute sa voix et tiens compte de sa voix. Et ce repos, je vous propose dans le chapitre 4 d'en parler la prochaine fois. C'est donc à suivre. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce texte qui, oui, nous place devant l'exemple de ces hommes dans l'ancienne alliance, ces hommes et femmes qui, dans le désert, t'ont tenté plusieurs fois, n'ont pas tenu compte de ta voix, n'ont pas tenu compte de ce que tu es, de ce que tu veux, n'ont pas tenu compte de ton dessein bienveillant à leur égard, de rentrer dans ce pays promis, dans ce repos promis. Ô Seigneur, nous pourrions les montrer du doigt, mais tu nous rappelles dans ce texte que nous devons aussi examiner notre cœur et voir ce que nous faisons de toi, de tes paroles, de ta volonté, de ton Fils bien-aimé. Et voir si nous ne nous privons pas justement aussi de ce que tu veux pour nous. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas avoir ce cheminement aussi dans le désert. Certes, nous pouvons vivre dans le désert, mais que notre vie soit dans terre promise. Que notre vie, donc, Seigneur, ne soit pas jonchée de révolte, de désobéissance, d'incrédulité, de remise en question de Dieu, de sa vie en Dieu. Seigneur, aide-nous à avoir cette constance dans notre vie. Seigneur, celle de donc te suivre en écoutant ta voix. Amen.